site informativo da Rádio França.
Chamada-se Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio, dans toute sa richesse et toute sa diversité. Ce soir, c'est avec Nedy Ribeiro de la rédaction en portugais.
Bonne nuit.
Pour un tour d'horizon de la vie politique en Angola. Pour la rédaction en anglais, Olia Norton.
Good evening.
Pour les ambitions de la France dans le développement de l'hydrogène et sa production sans émissions de CO2. Et puis Denis Strelkov de la rédaction russe.
Dobry vieczer.
Pour nous parler de l'entretien qu'ont eu Vladimir Poutine et Joe Biden cette semaine. Bonsoir à vous tous. En tout cas, ce qui fait la une de l'actualité, on va commencer avec ça, c'est l'inquiétude concernant le variant Omicron du coronavirus. Il y a trois quarts d'heure de cela, les autorités sanitaires françaises annonçaient que 2498 patients sont actuellement en réanimation en raison du Covid-19, en hausse de 37 cas. De nombreux pays sont donc inquiets. C'est le cas de la Grande-Bretagne.
As Omicron spreads in the community, we will also introduce daily tests for contacts instead of isolation.
Qui entend-on, Olia Horton?
Ici la voix du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a annoncé mercredi un durcissement des restrictions afin d'enrayer la propagation du variant Omicron du coronavirus. Plutôt que de demander l'isolation pure des gens contaminés, comme auparavant, il prône maintenant des tests quotidiens. Puis il compte aussi sur une accélération de la campagne de vaccination qui est en cours, surtout pour cette troisième dose. Alors Johnson appelle les nouvelles règles le plan B pour le Covid, pour éviter le terme lockdown, confinement, qui comprend déjà le port du masque élargi dans les zones publiques comme les théâtres, les cinémas à partir d'aujourd'hui. Il a annoncé aussi un retour au télétravail généralisé dès lundi prochain et l'introduction du passeport vaccinal pour la première fois pour l'Angleterre, pour certains grands rassemblements. Il dit au-delà de 5000 personnes, par exemple, debout dans un concert ou théâtre.
Et justement, puisqu'on parle de chiffres, quels sont les chiffres actuellement pour le variant Omicron dans le Royaume-Uni?
Alors, au dernier comptage, c'était au moins 568 cas. Évidemment, c'est plus élevé aujourd'hui, mais qui étaient formellement identifiés au Royaume-Uni mercredi. Certainement beaucoup plus élevé, selon Boris Johnson lui-même, dans sa conférence de presse. Il indique qu'Omicron semblait doubler tous les deux ou trois jours dans le pays. Et selon le ministre de Santé, qui exprimait au Parlement, il a dit que les fabricants de vaccins sont en train de tester dans les prochaines semaines des vaccins ciblant le Omicron spécifiquement. Il a cité une agence sanitaire en disant que c'est probablement plus proche à 10 000 cas d'Omicron dans le pays. Alors, le Royaume-Uni, comme on connaît tous, c'est un des pays les plus endeuillés actuellement, avec 146 000 morts depuis le début de la pandémie.
En France, on est à 98 000 morts ce soir, à peu près. Olia Horton, quelles sont les réactions à ces nouvelles mesures annoncées par Boris Johnson?
Alors, les Anglais, ils se sont habitués dernièrement à ces restrictions, les voyages, les fermetures de frontières, les ports de masque dans les magasins, les transports. Mais il semble que la population commence à rechigner à encore être contraint pour ces fêtes. Le colère, d'ailleurs, est remonté brutalement cette semaine après la publication d'une vidéo dans laquelle la porte-parole de Johnson plaisantait sur une fête de Noël qui aurait eu lieu à Downing Street 18 décembre dernier, en violation des règles anti-Covid. Et Johnson était très, très critiqué. Il s'est excusé dans le Parlement. Sa conseillère a démissionné cette semaine. Et même, il y a certains députés d'opposition qui ont réclamé sa démission. Johnson, il a dit, par contre, il fera une enquête interne. Il promet des conséquences pour ceux qui n'auraient pas respecté les règles, mais son soutien est en train d'effondrer très rapidement.
C'est ainsi que pour les chambres de commerce britanniques, ces mesures risquent d'affecter, je cite, « la fragile reprise, les commandes et le chiffre d'affaires ».
Tout à fait. C'est une réaction des bureaux, les zones des bureaux des villes. C'est un vrai coup bas, dit la directrice d'une association qui représente la bière et des pubs en Angleterre, très important pour le marché. Mais elle demande évidemment au gouvernement de proposer une aide de compensation pour les revenus perdus pendant la période de fête, sachant que les gens qui travaillent dans les bureaux en Angleterre, ils vont aller au pub après le bureau, mais s'ils sont en télétravail, ce ne sera plus le cas. Donc voilà, ils demandent tous les aides du gouvernement. Et d'ailleurs, dans le sport, il y a aussi des répercussions en ce moment, des perturbations dans les compétitions européennes. Le club de football Tottenham, à cause des infections des joueurs, le staff testé positif, ils ont dû annuler un match contre Rennes. Il y a aussi un match à Brighton qui était annulé le week-end dernier. Et Leicester se déplace à Naples dans la Ligue Europa sans 7 de ses joueurs, selon l'entraîneur.
Avec là aussi des systèmes hospitaliers qui sont au bord de la crise de nerfs, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai également en France, hein, Nelly Ribeiro.
C'est tout à fait cela, Philippe. La France a adopté en effet en début de semaine des nouvelles mesures sanitaires pour tenter d'enrayer l'augmentation du nombre de cas de Covid en raison de la cinquième vague de la maladie. L'exécutif français, rappelons-le, a décidé de fermer les boîtes de nuit pour une durée de 4 semaines et a également conseillé un retour au télétravail entre 2-3 jours par semaine. Dans les hôpitaux des nombreuses régions françaises, un plan blanc a été décrété pour tenter de faire face à l'afflux de patients Covid. Daniel Silva, directeur de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Denis près de Paris, a décrit la situation comme étant très critique. Je vous propose de l'écouter.
A situação neste momento está a ser crítica no sentido em que temos uma pressão crescente para admitir doentes Covid.
Alors, que vous a dit Daniel Silva, qui dirige donc l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Denis?
Daniel Silva explique que la situation dans les hôpitaux devient très critique en raison de l'augmentation de nombre de patients Covid gravement malades dans le service de réanimation. Cette pression est plus importante que celle vécue lors de la quatrième vague de Covid. Il part d'un taux d'occupation de 60% des patients très malades avec un âge moyen d'environ 50 ans. Admettons aussi que les patients sont pour la plupart des jeunes, dont beaucoup n'ont pas été vaccinés.
Denis Strelkov, du côté de la Russie, le pays dépasse 1 000 000 de morts chaque jour et pour la première fois, les autorités sanitaires russes introduisent le pass sanitaire.
Philippe, la dernière chiffre, presque 1 200 morts en 24 heures. Si on compare la population de la Russie et la France, c'est comme si on avait 500 morts en France par jour. Et ça, on ne l'a pas vu depuis l'avril 2020, au pic de la première vague. Pour la Russie, le problème, c'est toujours la vaccination qui piétine. Les Russes ne veulent pas, dans sa majorité, de se faire piquer avec Sputnik, le vaccin qui n'est toujours pas reconnu dans l'Union européenne. À la fin de l'année, le nombre des vaccinés dépasse à peine 50%, très peu par rapport aux certains pays de l'Europe. Et il faut bien le dire, la Russie était le premier pays à commencer sa campagne de vaccination en 2020. Pour inciter la population, pas de recette miracle, la vaccination est désormais obligatoire pour certaines professions. Pour accéder à de nombreux établissements, comme les restaurants et les magasins, il faut montrer son pass sanitaire à la Russe. Ce n'est pas le même qu'en France, seuls les vaccins russes sont reconnus. Mais cette mesure n'est pas appliquée dans tout le pays, car la loi concernant ce pass n'a toujours pas été adoptée par le Douma.
Est-ce que les autorités russes prévoient de nouvelles restrictions maintenant que débarque, on va dire, le variant Omicron?
Pour l'instant, en Russie, c'est le Delta qui fait peur. On voit bien que, même si le nombre des morts est élevé, il n'y a pas de vrai confinement comme en France ou ailleurs en Europe. Vu la situation économique dans le pays, il est presque certain qu'il n'y aura pas de fermeture de commerce. La Russie ne peut pas se le permettre. Mais l'Omicron est bel et bien détecté en Russie. Il s'agit des voyageurs venant de l'Afrique du Sud. Ils sont placés à l'isolement de ceux qui reviennent dans des pays à risque sont eux aussi placés en quarantaine. Et pour obtenir le pass sanitaire, si on n'est pas vacciné, il faut désormais avoir un test PCR de moins de 48 heures au lieu de 72 auparavant.
Alors, en Russie comme partout ailleurs, la question, est-ce que les fêtes de fin d'année sont menacées par ce nouveau variant?
Les Russes sont d'ores et déjà appelés à passer les vacances en Russie et de ne pas partir à l'étranger, sinon ils puissent être placés en isolement à leur arrivée. Mais dans tous les cas, le Sputnik n'est pas reconnu ni en Europe ni aux États-Unis. Il y a très peu de Russes qui voyagent à l'extérieur du pays depuis de la pandémie. Les fêtes en Russie ne sont pas en danger selon les autorités. Il faut bien sûr être prêt à tout. Mais pour l'instant, on peut envisager de passer ses vacances du Nouvel An sans problème et sans restriction, mais en Russie. Et le pays a sa particularité. Les jours fériés, c'est du 31 décembre au 9 janvier. C'est long quand même.
Nelly Ribeiro, je reviens vers vous. Face à ce variant Omicron, de nombreux pays ont donc fermé leurs frontières. Les mesures ciblant les voyageurs en provenance d'Afrique australe se sont multipliées puisque c'est d'Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud que le variant Omicron a été détecté pour la première fois. Cette mesure là-bas est jugée exagérée. Certains la qualifient de nouveau type d'apartheid.
En effet, Philippe, depuis l'annonce de sa détection le 24 novembre en Afrique du Sud, c'est le branle-bas de combat. Jugé plus contagieuse que le variant Delta, cette nouvelle souche de Covid-19 pourrait mettre à mal les politiques sanitaires prises dans le monde depuis bientôt 2 ans pour venir à bout de la pandémie. Plusieurs pays, notamment en Europe, ont décidé d'isoler l'Afrique australe, particulièrement l'Afrique du Sud, durement touchée par la pandémie, en fermant leurs frontières et en multipliant les restrictions, alors que la 5e vague a déferlé sur toute l'Europe. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a critiqué l'attitude des pays riches envers l'Afrique du Sud après la découverte du variant Omicron, et des organisations de la société civile d'Afrique australe se sont montrées indignés par la fermeture des frontières avec les pays de la région, qualifiant la décision de l'Occident d'un nouveau type d'apartheid. La haute commissaire de la lutte contre le Covid de la Guinée-Bissau, Magda Rubalo, parle d'un scandale.
Foi escândalo também vigido recentemente, o encerramento de fronteiras de cidadãos de países da África Austral, mais escândalo que se vem juntar.
Que vous êtes, elle dit, Nelly?
Elle dit que la fermeture de frontières avec les pays d'Afrique australe a été un scandale, car une fois de plus, les pays les plus développés pensent qu'il suffit de fermer les frontières aux pays moins développés pour être en sécurité. En même temps, elle dénonce un déséquilibre mondial, la gestion de la pandémie, qui continue à être défavorable aux pays africains, soulignant qu'il est urgent d'adopter un nouvel ordre en matière de santé publique dans lequel le leadership des gouvernements africains se fasse sentir pour mettre fin à la dépendance qui fragilise le continent.
Voilà ce qu'on peut dire ce soir sur ce Covid-19 qui continue donc de secouer la planète. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 degrés Paris, 20 degrés.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Revenons à présent sur la rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Les présidents russes et américains ne s'étaient pas parlé depuis des mois. Et s'ils ont pris leur téléphone, c'est pour tenter de résoudre un conflit important, puisque la Russie menace d'envahir l'Ukraine dans les prochaines semaines, les prochains mois. Denis Strelkov, de la rédaction russe, est-ce que ce risque est bien réel ou est-ce qu'il s'agit d'un chantage politique ?
Philippe, pour comprendre ce qui se joue, revenons un peu en arrière. Les mots prononcés sont de plus en plus forts ces dernières semaines. Du côté ukrainien, on parle de l'agression, d'une guerre. Des milliers de soldats russes sont déjà à la frontière et qui peuvent attaquer depuis 2022. Ce sont des informations des services spéciaux ukrainiens, mais également américains. Il y a quelques semaines, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, disait même qu'un coup d'État se prépare en Ukraine et que la Russie y participe sans doute.
Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація.
Aidez-nous à comprendre ce que dit le président ukrainien.
Selon mes informations, le 1er décembre, un coup d'État aura lieu. J'ai des écoutes téléphoniques. Il y a un oligarque qui est impliqué dans cette affaire. Il ne faut pas mener la guerre contre son peuple, contre le président choisi par le peuple. Le coup d'État qui était apparemment prévu n'a pas eu lieu, mais les situations politiques en Ukraine, affaiblies par le conflit avec la Russie, restent tendues.
En Russie, au début, les autorités disaient que la menace d'invasion russe en Ukraine n'existait pas, Denis.
Et même les médias russes, même ceux d'opposition, se doutaient de cette information, et puis on croyait que ce n'était qu'une démonstration de force russe pour faire peur, pour manipuler. Et pour cause, la même menace russe a été évoquée par l'Ukraine en avril 2021. Le nombre de soldats russes à la frontière a été estimé à 100 000 par l'Union européenne. Mais peu après le sommet entre Biden et Poutine à Genève, Moscou annonçait le retrait de son armée. Cette fois-ci, à la frontière russe, la situation semble beaucoup plus tendue. Près de la frontière, selon l'Ukraine, on voit des chars, des forces aériennes et navales. Et on sait déjà que les États-Unis préparent des sanctions monstrueuses en cas d'agression russe. La Russie pourrait notamment perdre l'accès au système bancaire international SWIFT. Cela veut dire la fin des transactions internationales pour ces établissements financiers.
Alors pourquoi est-ce qu'on estime cette fois-ci que l'Ukraine et la Russie sont pratiquement en guerre ? Cela pourrait de nouveau être une provocation de la part de la Russie.
Ce qui est sûr, c'est que la Russie essaie d'avancer dans son dialogue avec les États-Unis. L'Ukraine n'a jamais caché ses ambitions de rejoindre l'OTAN. Cela inquiète beaucoup le Kremlin. Les alliés des États-Unis pourraient y installer des armes. Pour Moscou, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Pour éviter ce scénario, Moscou semble être prêt prêts à tout, mais est-ce que la Russie veut réellement envahir l'Ukraine? C'est une question qui a été posée à M. Poutine et on l'écoute.
C'est un problème provocationnel. La Russie fait une миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал.
La Russie veut-elle réellement envahir l'Ukraine? Quelle est la réponse de Vladimir Poutine?
La Russie mène une politique extérieure pacifique, mais elle a tout à fait le droit de garantir sa sécurité au moyen et au long terme. Depuis des décennies, on demande à l'OTAN de ne pas s'approcher de nos frontières, mais elle ne nous écoute pas. Bien sûr, cela nous inquiète. Voici ce que Poutine dit. Ce que les journalistes russes ont trouvé le plus choquant, c'est que M. Poutine n'a pas dit non, qu'il a confirmé à tout le monde que la Russie pourrait réagir. Et ça, c'est un signe d'une guerre, pour le moins psychologique et médiatique.
Alors, la Russie est toutefois ouverte au dialogue. L'homme fort du Kremlin a parlé pendant des heures avec le président américain cette semaine. Qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre téléphonique?
Ce qui est sûr, c'est que le sujet central de cette discussion, c'était la situation en Ukraine. On l'a confirmé à la Maison-Blanche et au Kremlin. On l'a communiqué, diffusé par les autorités russes. La Russie veut obtenir des garanties juridique que l'OTAN ne va plus progresser vers l'Est. Cela veut dire que l'Ukraine ne fera pas partie de l'alliance militaire. À Moscou, on voudrait également poursuivre la discussion au format de Normandie, donc avec l'Ukraine, l'Allemagne et la France, pour trouver une solution. Du côté américain, Joe Biden a sans surprise soutenu l'Ukraine. Il a affirmé que les États-Unis sont prêts à agir si la situation se dégrade. Cependant, la guerre entre la Russie et l'OTAN, même la guerre froide, n'a pas été évoquée dans le communiqué officiel, ce qui laisse un peu d'espoir.
Et à part des désaccords évidents entre la Russie et l'Alliance Atlantique, pourquoi y a-t-il tant de tensions entre Moscou et Kiev?
Tout d'abord, en Ukraine, il y a une question qui se pose toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la Crimée, annexée par la Russie en 2014? Vladimir Zelensky, le président ukrainien, répète sans arrêt qu'il sera sous contrôle de son pays. Sauf que pour Moscou, la réponse est claire, la Crimée c'est russe, et si l'Ukraine prévoit de l'envahir, bah, c'est de l'agression. La Russie va donc riposter, et pour l'instant, il n'y a pas de solution diplomatique, c'est l'impasse. En outre, les situations ne cesse de se dégrader à Donbass, à l'est de l'Ukraine. La guerre y continue depuis déjà 7 ans. Les combats ne finissent pas pour le Kremlin. Il ne s'agit pas d'une guerre, uniquement des combats entre les séparatistes et l'armée ukrainienne. Les soldats russes, selon le Kremlin, n'y ont jamais mis le pied. Ce sont des volontaires engagés. Mais dans les milieux de pouvoir russes, il y en a ceux qui veulent envahir ce territoire, comme la Russie a fait avec la Crimée.
Et puis, hier, lors de sa conférence de presse pour préparer la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron a annoncé qu'il va parler, lui aussi, à Vladimir Poutine, comme Joe Biden. Quels seront les sujets de cette discussion?
Le sujet le plus important, c'est évidemment l'Ukraine. Monsieur Macron a évoqué le succès du format Normande, et pour cause, pour la Russie, les États-Unis, vous savez, étaient depuis toujours les concurrents, les adversaires même, mais pas les partenaires. Avec l'Europe, M. Poutine peut établir un dialogue, même si en France, on parle d'une dialogue exigeante. Mais il y a encore un autre sujet, c'est l'Afrique. M. Macron a annoncé hier son plan pour établir un partenariat entre l'Union européenne et les pays du continent voisin. Le problème, la Russie a envoyé ses mercenaires au Mali et dans d'autres pays, un groupe militaire Wagner. On appelle ça l'armée fantôme de Poutine. Mais la France s'oppose à cette décision. La Russie, comme toujours, explique, on n'y est pour rien. C'est un sujet qui pourrait être abordé par M. Poutine. Et là aussi, il s'agit d'un levier que la Russie peut utiliser à ses fins.
Et bien évidemment, la rédaction russophone de RFI, comme toutes les autres d'ailleurs, suit cette affaire de très près. C'était Denis Strelkov de la rédaction russe. En ce moment, l'Angola vit à l'heure des congrès des principaux partis politiques du pays. C'est le cas en particulier du parti au pouvoir, depuis l'indépendance en 1975, le MPLA. Et le président du parti, João Lourenço, je le prononce à la française, né d'Aribeiro, il se représente. Il faut dire qu'il est le seul candidat.
Oui, Philippe, cette fois, il y avait un autre candidat, mais qui a fini par être écarté. Il s'agit d'Antonio Venâncio qui a vu le MPLA, le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, rejeter son intention de se présenter à la direction du parti. La sous-commission de candidature de la Commission nationale préparatoire du 8e congrès ordinaire du MPLA a informé à l'époque qu'elle n'avait reçu qu'une seule candidature à la direction du parti, la candidature de João Lourenço, précisant qu'elle n'avait reçu aucune candidature formelle d'Antonio Venâncio. Antonio Venâncio qui avait publiquement exprimé son intention de se présenter et qui avait aussi dénoncé des intimidations à l'encontre de ses partisans. Face à cette position, Antonio Venâncio a décidé de présenter un recours pour empêcher la tenue du Congrès. Mais cette semaine, la Cour constitutionnelle a fini par rejeter le recours sous prétexte qu'il s'agissait d'un recours non spécifié. João Lourenço se trouve à nouveau seul maître à bord. Lui qui a réitéré faire de la lutte contre la corruption sa priorité. Il a affiché aussi son optimisme dans un regain de la confiance déposée par les Angolais. Écoutons les mots du président de l'Angola et du MPLA, João Lourenço.
O país leva a cabo uma luta contra a corrupção e a impunidade para a moralização da nossa sociedade. Em combater a corrupção e do nosso empenho
e capacidade contra a corrupção.
Voilà, c'est ça. João Lourenço afirme que le pays mène une lutte contre la corruption et l'impunité pour la moralisation de la société. Il réitère la détermination de la société, de l'exécutif, de la justice angolaise à lutter contre la corruption, l'engagement à récupérer les avoirs acquis illégalement où qu'il se trouve. João Lourenço parle aussi du fait de son parti, pour la première fois dans l'histoire de l'Angola, a atteint la parité homme-femme au niveau de la composition de ses organes, avec son comité central partagé entre autant d'hommes que de femmes.
Alors, il faut savoir qu'il y aura des élections générales en août de l'année prochaine. L'UNITA, qui est le principal parti d'opposition en Angola, a également réélu son président, Adalberto da Costa Junior. Il dirigeait, cet homme, le parti depuis fin 2019.
Exactement, Philippe. En octobre, la Cour constitutionnelle avait invalidé la nomination de Adalberto da Costa Junior comme président de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, lui qui dirigeait le parti depuis fin 2019. Parmi les irrégularités alléguées figurait la double nationalité de Adalberto da Costa Junior à la date de la présentation de sa candidature aux élections du 13e Congrès. Une décision qu'il avait dénoncée comme une attaque contre la démocratie, sans base légale, et qui avait été annoncée le jour même où l'UNITA concluait un accord avec deux autres partis d'opposition. Adalberto da Costa Junior avait été désigné leader de la nouvelle coalition, le Front Patriotique Uni, avant de renoncer trois jours plus tard à l'annonce de l'annulation par la justice de son élection à la présidence de l'UNITA. Le week-end dernier, Adalberto da Costa Junior a été à nouveau confirmé à la tête de l'UNITA avec plus de 96% des voix. Le politique a dédié la victoire aux Angolais.
Esta vitória não me pertence. Pertence-nos a vós todos e pertence a todos os angolanos. Pertence aux militantes da UNITA.
Il est donc dans l'opposition et qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que cette victoire ne lui appartient pas, elle appartient aux militants de l'UNITA, à tous les Angolais qui aspirent au changement démocratique, à une vraie démocratie. C'est une victoire dont le poids apporte aussi des plus grandes responsabilités que l'UNITA assume pour mener le parti à une victoire en 2022. Il faut rappeler, il n'y a jamais eu d'alternance en Angola. Le pays est resté toujours sur la coupe du MPLA depuis l'indépendance. Adalberto da Costa Junior, 59 ans, se positionne ainsi comme le principal adversaire du président angolais, João Lourenço, 67 ans, qui brigue un second mandat en août 2022.
Voilà bon, pour cet éclairage précis et circonstancié sur la vie politique en Angola. C'est avec Nedy Ribeiro de la rédaction en portugais de RFI. Revenons maintenant avec la rédaction en anglais sur l'annonce faite par le président français. Hier, Emmanuel Macron a promis que 7 milliards d'euros seront consacrés au développement de la filière hydrogène. Cela dans le cadre du plan d'investissement France 2030, dont l'enveloppe totale est de 30 milliards d'euros. Selon le gouvernement, le besoin d'hydrogène en France est d'environ de 900 000 tonnes tous les ans. Mais le problème pour ce secteur est que la production d'hydrogène est carbonée à 90% en raison des technologies utilisées, dont les émissions de CO2 avoisinent 9 millions de tonnes par an, ce qui n'est pas rien. L'enjeu est donc de produire de l'hydrogène sans émissions de CO2, ce qu'on appelle un hydrogène vert. Olia Horton, une définition tout d'abord. Qu'est-ce que c'est exactement cet hydrogène vert ?
Alors, c'est un gaz qui peut être produit sans émettre de CO2 grâce à l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse est un processus qui vise à décomposer l'eau à l'aide d'un courant électrique. Alors, l'hydrogène vert est donc réalisé à partir d'une électricité renouvelable, comme le nucléaire ou le vent, par exemple. Et c'est vu comme la seule solution connue à ce jour pour débarrasser de ces émissions CO2 dans les secteurs les plus émetteurs de gaz d'effet de serre.
Alors, quels sont les secteurs, justement, qui peuvent envisager l'hydrogène vert ?
Alors, actuellement, l'hydrogène est utilisé dans la production d'engrais, par exemple, et aussi dans l'industrie de l'acier. Mais le secteur des transports est vraiment la priorité pour la France aujourd'hui, car c'est la première source de CO2 avec 30,1% des émissions en équivalent de CO2, loin devant l'agriculture qui est à 19,6%. Alors, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a suggéré un écosystème qui pourrait être mis en place à côté des sites nucléaires existants, par exemple, pour assurer la production et le traitement de l'hydrogène. Alors, il pense que ça pourrait être même la solution plus loin pour les petits avions qui pourraient être totalement décarbonés avec une capacité un peu moindre, c'est-à-dire 80 à 100 personnes. Il pense que l'hydrogène pourrait être tout à fait une solution pour ça.
I wouldn't say it is the energy of the future. I think the future will include hydrogen. That is sure, especially for heavy load vehicle.
Qui entend-on là ? Ce n'est pas Emmanuel Macron.
C'est pas, non, et ce n'est pas Bruno Le Maire non plus. En fait, c'est Stéphane Bis. Il est directeur technique et chargé de projet à une société qui s'appelle Semitan, une société de transport public dans la ville de Nantes qui expérimente avec les véhicules basés sur l'hydrogène depuis quelques années déjà. Il a été interviewé pour un reportage par ma collègue Sarah Elzes pour le podcast Spotlight on France. Et Stéphane dit que même si ce n'est pas la seule solution pour l'avenir, l'hydrogène fait absolument partie de l'avenir quand il s'agit d'une transition énergétique.
Et quels sont précisément ses avantages ? On en a parlé, mais il y en a d'autres.
Oui, en particulier, l'hydrogène est une solution idéale parce que c'est léger, qui pourrait faciliter les longs trajets des poids lourds, car les batteries, c'est trop encombrant. On imagine la taille de batterie pour faire les longues distances, ça sera trop lourd pour ce genre de transport. Donc, l'hydrogène pourrait subvenir à ça. Il y a aussi le fait que l'hydrogène peut être stocké et pour une utilisation plus tard. Évidemment, il y a des questions de sécurité qui se rajoutent à ça parce que c'est hautement explosif quand c'est stocké. L'électricité supplémentaire qui est produite par les éoliennes qu'on voit un peu partout à la campagne en France, en pleine nuit quand ça tourne, l'énergie, s'il n'est pas utilisée, c'est perdu. Alors ça peut être transformé en hydrogène et transporté pour être utilisé ailleurs.
Oui, puisque le problème de l'énergie électrique, c'est le stockage.
C'est ça.
Donc là, ce serait une alternative.
Exactement.
Et puis la rédaction en anglais de RFI a pu visiter récemment un site de production d'hydrogène. C'est en Bretagne et il s'appelle LIF.
Life. Comme la vie.
L-H-Y-F-E, hein, pas L-I-F-E.
Je pense que j'ai fait une petite faute d'orthographe, mais ça se prononce life, bon. Comme la vie. Alors, c'est géré par Mathieu Guéné, le directeur, qui a dit bien avant maintenant, il a dit en 2017, personne n'était au courant de l'hydrogène vert, mais évidemment, ça a bien changé aujourd'hui. Alors, actuellement, son échelle est petite. Ils produisent environ 300 kg d'hydrogène jusqu'à une tonne en pleine capacité par jour. Ça peut remplir déjà 700 véhicules utilitaire. Mais pour le long terme, évidemment, ils visent avec beaucoup d'ambition d'installer des turbines au large de la côte et éventuellement utiliser l'eau de mer pour produire l'hydrogène. Eux, aujourd'hui, ils utilisent des turbines, ils sont attachés à des éoliennes en Bretagne actuellement. Alors, Mathieu Guéné estime que l'hydrogène va subvenir à environ 20 à 25% des besoins de France en énergie d'ici 2030. Mais d'autres analystes sont un petit peu plus modestes. Ils estiment entre 6 à 10% de besoins de France en énergie d'ici 2030.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'hydrogène et surtout l'hydrogène vert avec Olia Horton de la rédaction en anglais. Merci à vous tous pour Action du Monde. C'était Nelly Ribeiro de la rédaction en portugais et Denis Strelkov de la rédaction russe. Action du Monde, réalisé par Jean-Philippe Thury, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.
RFI, la sélection du mois.
Rokia Kone et Jack Naïfoli. Ayo et Kezia Jones.